C'est ce vendredi que commence la 76e édition du Festival international de musique de Besançon. Jean-Michel Mathé, c'était une édition anniversaire l'année dernière et on avait le sentiment peut-être que vous aviez mis toutes vos forces dans cet anniversaire-là. J'ai l'impression que cette année, vous voulez nous émerveiller encore plus.
Oh, vous êtes bien flatteur. Écoutez, on essaie de garder notre rang de festival international avec une place très forte, évidemment, pour la musique symphonique. Il n'y a pas finalement tant de festivals que ça qui peuvent accueillir des grands ensembles. Donc, on en fait partie. Et puis, on a cette particularité d'avoir les années pairs comme cette année, le concours de chef d'orchestre qui joue dans l'identité de la place des grandes formes et du symphonique dans notre festival. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on avait un peu cassé la tirelire avec pas mal d'ensembles internationaux. On essaie de garder ce niveau-là avec des orchestres de France, de Suisse, d'Allemagne, un chœur anglais. Donc, cette dimension internationale et avec un grand éclectisme aussi à la fois des répertoires et aussi des formes musicales. On ne fait pas que du symphonique, évidemment.
Festival créé en 1948, alors c'est une richesse l'histoire ou c'est un poids, monsieur le directeur ?
C'est un peu les deux, à la fois. C'est un héritage qui est à la fois prestigieux et sur lequel on s'appuie parce qu'on a eu ici, dans les années 50-60, les plus grands chefs. On a eu Fourth Van Glaire, on a eu Samson François dans Pianiste, on a eu des compositeurs qui sont venus, Honegger, Dutilleux. Donc, il faut essayer d'être à ce rang-là, ce qui n'est pas facile. Mais c'est aussi, on peut aussi en sortir cet héritage puisque le festival a beaucoup évolué depuis les premières années. Il est devenu beaucoup moins élitiste puisque dans les années 50-60, c'était vraiment un événement un peu mondain, réservé un petit peu à l'élite. Et donc, il s'est beaucoup ouvert avec des concerts gratuits, avec des répertoires plus larges, avec plus de lieux de concert différents. On est sorti aussi des murs de Besançon et puis on s'est ouvert à d'autres répertoires. On va jusqu'aux musiques du monde et au jazz. Mais quand même, l'âme, l'esprit d'origine, il est toujours là avec ce lien fort avec la création contemporaine, avec la musique symphonique et cette dimension internationale qui était là depuis le début et qu'on essaye de maintenir évidemment pendant ces périodes plus récentes.
Les lieux, vous écumez quasiment tous les lieux de musique possibles à Besançon. Vous commencez auprès de Vaux, mais ça c'est le concert flamboyant d'ouverture. Mais sinon, vous passez par le Grand, le Petit Cursaal, le Théâtre Ledoux, évidemment la cathédrale Saint-Jean, le Palais de Justice.
La Cité des Arts, qui est le
conservatoire, bah oui.
Également. Oui, alors il y a d'autres lieux qu'on ne peut pas investir, mais c'est vrai qu'on est très présent sur pas mal de lieux. Donc c'est aussi ça, cette diversité qui est liée aussi au répertoire. En fait, je fais énormément très attention à la programmation, à ce que chaque programme ait le bon écrin. Il n'y a rien de pire que dans un festival de musique classique d'avoir des lieux qui ne sont pas adaptés au concert, même si évidemment nos salles ne sont pas aussi prestigieuses que celles d'autres lieux. Mais le festival tient son rang avec ses grandes formations et les lieux dont il dispose. On va sortir un peu des murs aussi.
Oui, festival de musique de Besançon et de Franche-Comté. Hein, donc vous allez passer par Dole. Par Arquesnon pour une inauguration ?
Ça, c'est un événement très important puisque le territoire va avoir la chance d'avoir une nouvelle salle de concert qui, je pense, va devenir la plus belle salle de concert de Franche-Comté. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire de Bourgogne-Franche-Comté, loin de là. C'est une salle qui va prendre place à la Saline Royale d'Arquesnon le 15 septembre. C'est l'inauguration officielle dans le cadre du festival. Alors, évidemment, ça a été pris d'assaut parce que c'est avec Renaud Capuçon, l'orchestre de chambre de Lausanne. C'est une salle d'à peu près 500 places, mais vraiment étudiée pour la musique classique. Donc, on pense que l'acoustique, elle était déjà testée un petit peu en privé. Et donc, 500 places, modulables, climatisées, que vraiment créées pour la musique. On rêverait de la même à Besançon avec plutôt 900 places. Mais bon, ça, c'est pas encore dans les projets.
J'ai tendance à qualifier le concert d'ouverture comme vraiment flamboyant. concert en plein air, ah, si le temps le permet.
En concert en plein air, festif, gratuit, retransmis sur écran géant et puis également en direct sur Internet. C'est un moment important de rencontre avec le public. Alors cette année, on a légèrement modifié l'horaire. On commencera à 20h parce que bon, à 21h, pour les fans de rugby, il y aura le premier match de la Coupe du Monde. Donc, mais bon, écoutez, on va faire une contre-programmation. Donc, ceux qui aiment le rugby et la musique peuvent venir à 20h écouter l'orchestre de Victor Hugo, Gershwin, Dvorak, et puis il y aura d'autres surprises. Donc, je ne vais pas vous en parler encore de cette grande inspiration américaine avec un orchestre de Victor Hugo en pleine forme et une jeune pianiste, Marie-Ange Nouti, qui va être au piano pour le concerto en fa de Gershwin. Et puis une deuxième partie festive, alors la musique du monde, exaltante, avec la fanfare un peu cigane, turc, oriental, qui s'appelle Haydouti Orchestra, qui va mettre, je pense, la belle ambiance pour la deuxième partie de soirée, qui sera toujours sur ce site des Prés de Vaux, sous la citadelle, en plein air. Ça sera une belle manière de commencer ce 76e festival.
Côté des styles de musique, vous embrassez large, j'ai même le sentiment que vous embrassez peut-être de plus en plus large, même si la musique symphonique, vous l'avez rappelé, reste votre point d'ancrage principal.
Alors, on n'est pas beaucoup plus large que dans les années précédentes. On a cette petite touche de musique du monde avec 4 concerts, de jazz avec des concerts gratuits. Mais on a 2 incursions en musique ancienne avec une passion selon Saint-Jean, avec l'ensemble des surprises. On va avoir l'ensemble, le chœur Ténébré en musique vocale, qui a un chœur anglais à la cathédrale, pour un programme de la Renaissance à nos jours. Et puis, on va jusqu'à la musique contemporaine avec notre compositeur Alexandros Markeas et d'autres compositeurs présents et compositrices. C'était moins le cas dans les années précédentes. On a vraiment un concert vraiment de musique contemporaine le 12 septembre, un petit peu dans l'exploration qui s'appelle Diffraction, qui est un voyage de l'écoute avec une installation visuelle et sonore, et puis des œuvres de Ravel, de Markeas, d'Olivier Messiaen. Mais on va, voyons, cet éclectisme-là va évidemment jusqu'au grand symphonique, puisqu'on aura l'Orchestre national d'Île-de-France, on aura l'orchestre de Reutlingen, dirigé par Ariane Matiak. Et puis un concert que je voudrais quand même citer, c'est un des derniers concerts de l'ensemble Les Dissonances, puisque vous le savez, il va arrêter son activité dans quelques mois.
Dissonances qu'on a vu beaucoup ces dernières années à l'Opéra de Dijon.
Et oui, puisqu'il était associé à l'Opéra de Dijon, maintenant il ne l'est plus, donc il est plus présent à Dijon. Il est l'occasion pour ceux qui sont les grands fans de David Grimal d'entendre, parce que ça reste toujours très incroyable dans la manière dont il fait. Là, ça va être un programme avec le poème de Chausson, La mère de Debussy, qui a vraiment un grand chef-d'œuvre créé en 1905, et puis Pélas de Schoenberg. Ça sera le samedi 16 septembre. Moi, j'ai un peu un coup de cœur personnel, parce que c'est un peu aussi un peu d'émotion de voir cet ensemble qui, pendant 20 ans, a essayé une aventure assez particulière. Et puis, c'est aussi un petit clin d'œil, parce que ça sera juste avant le concours de jeune chef d'orchestre. On fait un concert sans chef d'orchestre. Mais malheureusement, c'est une des dernières occasions d'entendre cet ensemble. En tout cas, 16 septembre à Besançon, faut pas le rater, ce concert.
Du côté des programmes, j'ai le sentiment que pendant un temps, on a hésité à interpréter certaines œuvres trop connues. Je pense à l'hymne à la joie de Beethoven. Je pense alors pourquoi pas dans un tout autre genre. Vous avez fait allusion au chœur anglais, au Miserere d'Allegri, mais aussi beaucoup d'autres choses. J'ai l'impression que ces grandes œuvres du répertoire reviennent un peu sur les affiches.
On ne peut pas faire un programme avec que des choses trop pointues ou trop inconnues. Le public a besoin de ses repères, et je pense que c'est notre rôle de festival de proposer régulièrement ces grandes œuvres du répertoire, à la fois parce que le public l'attend, on en a besoin pour les salles, mais aussi pour, à partir de ces œuvres du répertoire, et bien faire découvrir d'autres choses. Par exemple, Magnificat de Bach, et bien à côté, il y aura des œuvres moins connues de Schütz, et puis jusqu'au Magnificat d'Arvo Pärt, ou Beethoven. Ça, c'est vrai que finalement, c'est assez rare qu'on a beau l'entendre beaucoup, mais finalement, en concert, pas si souvent. Là, en plus, avec l'Orchestre de Dijon, qui vient pour la première fois à Besançon, on est très fiers qu'ils viennent pour ce programme-là, avec l'Orchestre de Dijon.
Alors, c'est important parce que c'est un programme franco-allemand.
Oui, parce que c'est une coproduction montée par l'Orchestre de Dijon-Bourgogne, avec le Chœur du Palais de Dijon, et puis, puisqu'ils sont jumelés avec Mayence, dans le cadre, c'est à l'occasion du traité franco-allemand, notre traité d'amitié, le traité de l'Élysée, que cette coproduction existe. Ce sont des musiciens de la Philharmonie de Mayence, qui vont venir renforcer l'orchestre, puisque l'Orchestre de Dijon n'est pas assez nombreux pour faire la 9e. Et puis le Chœur de l'Opéra de Dijon sera aussi renforcé. Donc on est vraiment très heureux de cette coproduction qui sera proposée à Dijon, évidemment, et cette fois-ci à Besançon, donc le 9 septembre.
Dirigé par Joseph Bastian.
C'est bien, je trouve, pour Dijon d'avoir un chef de ce niveau-là. En tout cas, nous sommes très heureux. Et puis l'Orchestre de Dijon va revenir une semaine après faire le bon office de l'épreuve d'opéra du concours de jeunes chefs d'orchestre. Donc ils vont venir deux fois à Besançon, donc on est très heureux de les accueillir pour la première fois à Besançon.
Jean-Michel Mathé, il y a le festival par lui-même, et puis alors, le concours de jeunes chefs d'orchestre, alors qui existe depuis un tout petit peu moins longtemps, créé au début des années 50, et qui n'a lieu qu'une fois tous les deux ans, donc cette année, c'est une année avec concours. Ça commencera le 18 septembre avec une vingtaine de candidats.
Oui, c'est ça. On a fait des sélections au printemps. Le concours de Besançon est vraiment le plus célèbre, le plus large au monde. Et donc, on est le seul à faire des sélections live, c'est-à-dire vraiment en direct. On a parcouru le monde. On est allé à Tokyo, à Berlin, à Montréal, à Paris. On a vu 280 candidats. Les 20 meilleurs ont été sélectionnés par un petit jury. Et ils vont venir à Besançon pour 4 jours d'épreuves. Toutes les épreuves sont publiques. Puis en plus, c'est un tarif modique. Le premier et deuxième tour, c'est 10 € la journée pour voir tous ces candidats. Ah, c'est vraiment top chef. Il y a une ambiance incroyable. Chacun a ses pronostics. Donc, 20 candidats, beaucoup d'Asiatiques, 9 Asiatiques, 2 Français, 4 femmes dans ces candidats. Et puis, la demi-finale, donc le 20 septembre, seront avec plus que 8 candidats. Et la finale, le 23 septembre, il ne reste plus que 3 finalistes. Au programme de la finale, ça sera l'ouverture de Mozart, ça sera une création contemporaine d'Alexandros Markias, et puis Don Juan de Strauss, donc grand répertoire pour grand orchestre. Donc voilà, et puis une cérémonie à suivre également. Tout ça en direct sur le web, sur écran géant. Mais le mieux, c'est quand même de venir le voir directement sur place à Besançon Théâtre. Il reste encore des places pour cette finale. C'est un moment très fort. Et puis en plus, on est content parce que c'est la première fois qu'un chef asiatique, donc c'est Yutaka Sado, japonais, qui va présider le concours, le jury. Il a gagné le concours en 89. L'Asie a toujours été un partenaire très fort. On est très connu en Asie, le festival. Il y a beaucoup de gagnants de japonais, asiatiques, taïwanais. Mais c'est la première fois, du coup, qu'un Asiatique va présider le concours. Et ça nous paraît important aussi, parce que c'est un festival international et ce n'est pas un festival franco-français. Donc voilà, on passe la présidence du jury à Yutaka Sado. Et donc, c'est toujours un moment très fort pour terminer ce festival. Donc, du 18 au 23 et finale le 23 septembre.
Qu'est-ce qui, selon vous, fait venir les candidats à Besançon? Ce sont les grands noms qui sont passés par là? C'est une sorte de labellisation, c'est quoi?
Alors, tous n'ont pas réussi, mais alors, ce qui a lancé le concours, c'est évidemment des grands noms comme Seiji Ozawa en 59 et puis d'autres qui ont gagné le concours de Cambrelin à bien, bien d'autres. Et puis, dans les dernières années, on voit aussi que tous les candidats qui ont gagné dans les 10 dernières années ont fait des débuts de carrière fulgurants. Donc, ils voient bien entre Ben Glasberg, Jonathan Hayward ou Nodoka Okizawa qui a gagné en 2019, qui va revenir à Besançon, qui a été invité à Berlin régulièrement. On voit bien que c'est un coup d'accélérateur incroyable à la carrière. Et donc, du coup, il y a une envie très forte de ces candidats. Cette année, les inscriptions se sont faites en 24 heures. Ça en a été, mais submergé de demandes. On a refusé beaucoup de monde. On aurait pu voir 300 ou 400 candidats. C'est incroyable. Et de voir cet engouement des jeunes générations pour devenir chef d'orchestre, c'est quand même très gratifiant et très positif. Et c'est un signe positif parce que la musique classique, elle est à défendre, elle n'est pas toujours en grande forme dans notre société. Donc quand on voit les jeunes générations comme ça qui sont passionnées par la direction d'orchestre, ben, ça donne envie de continuer et de continuer aussi à proposer ce concours dans ces conditions-là, avec des sélections live au printemps, avec des épreuves d'opéra, de concerto, musique contemporaine. C'est vraiment une spécificité. Ça demande des gros moyens, un gros investissement. Mais voilà, c'est ça le Festival de Besançon et le concours de jeunes chefs. Donc on tient à garder ce rang également.
Et ça ne donne pas envie de faire le concours tous les ans?
Alors, le concours était annuel au tout début, puis il est devenu biennal. Beaucoup de concours n'ont lieu que tous les 3 ou 4 ans. D'abord, on n'en a pas les moyens humains et financiers, parce que c'est un très gros investissement. Et puis aussi, est-ce qu'il y a vraiment tous les ans des candidats au niveau? Ben, c'est pas sûr. Vous voyez, par exemple, la dernière fois, on n'a pas eu de lauréat en 2021. Donc, on est sûr bien qu'il y en aura une lauréate cette année. Donc, on ne veut pas diminuer le concours et le faire tous les ans. Ça serait le risque de ne pas avoir des candidats niveau. Il faut du temps pour être formé et pas sûr qu'on puisse trouver des petits génies tous les ans, tout simplement.
Ça s'appelle l'exigence?
Je crois que c'est l'exigence. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de Grand Prix en 2021. On tient à tenir notre rang. On ne brade pas le Grand Prix. Et c'est important de garder cette exigence de niveau dans la composition du jury, dans les ensembles qui sont proposés et bien sûr dans le niveau du Grand Prix qui est attribué à un des candidats de la finale.
On ne brade pas à Besançon, que ce soit pour ce 58e concours de jeunes chefs d'orchestre, que ce soit pour le 76e Festival international de musique, même si certaines manifestations sont gratuites. Je pense à tout ce que vous proposez, Place Granvelle, par exemple, alors qui est plus orienté vers le jazz. Un site internet festival-besançon.com, mais d'une manière générale, on met les liens sur le site de BFC Classique et on en reparle.